joie, même après une année environ d'absence, un lieu qui pour nous est providentiel, comme le fut la chambre haute lorsque le Seigneur était sur la terre, qu'il n'avait pas de demeure qui lui appartienne, mais un ami avait été préparé par Dieu pour accueillir Jésus et ses disciples dans cette dernière soirée où il allait célébrer la Pâque. Jésus a été accueilli dans un lieu providentiel. Et pour nous, la maison qui nous reçoit est vraiment ce lieu providentiel qui nous permet de réaliser depuis plusieurs années et trois fois par année jusqu'à présent, il n'y a que cette année que ce n'a pas pu être possible, nous permet de réaliser ce que nous appelons, et je pense que vous avez lu, vous l'avez tous reçu, vous avez lu l'invitation, c'est une immersion biblique que nous allons connaître. Vous n'êtes pas venu pour écouter un orateur. Nous sommes ensemble pour nous plonger dans la lecture de ce que nous croyons être la parole divinement inspirée par l'Esprit de Dieu et qui est toujours utile pour nous transformer à l'image même de Jésus qui nous accueille. Alors, je me permets de m'asseoir et cette parole d'accueil, je l'ai inscrite au tableau. Vous connaissez le thème, je pense que vous vous en rappelez, je l'ai aussi écrit pour rafraîchir votre mémoire. Peut-on attendre dans l'aujourd'hui de notre vie, c'est-à-dire au cours de notre existence personnelle, est-ce qu'on peut attendre la venue du Seigneur pour les siens? Parce que si vous connaissez un peu les Écritures, vous aurez remarqué que dans la venue du Seigneur, il y a deux phases bien précises. Il revient pour les siens et ensuite avec les siens. Il n'y a pas deux retours du Seigneur, il y a un retour du Seigneur. Mais nous croyons, par l'ensemble des Écritures, qu'il y a une venue pour ceux qui croient d'abord, une venue qui est la bienheureuse espérance des chrétiens, qui vivent près du cœur de Jésus, et ensuite une venue pour le monde. Il veut d'abord voir les siens et avoir les siens avec lui avant de se montrer au monde, car il ne se montrera au monde qu'avec les siens. Et quand j'ai eu, après, c'était je pense, quand j'ai écrit, j'ai pris cette décision, c'était à Pâques, oui. Je ne fais pas de retraite ou de conférence si le Seigneur ne me donne pas le sujet et ne m'impose pas ce qu'il a à dire. Et à ce moment-là, quand les sœurs m'ont dit « Nous ne pouvons pas vous recevoir en juin comme l'année passée, mais nous pouvons vous recevoir en octobre et en novembre. » Et alors je me suis dit « Ça sera assez proche, mais... » Peut-être que le Seigneur le permet pour qu'on puisse traiter un sujet qui se lie, même si vous ne pouvez pas venir dans la deuxième retraite. Et alors, poussé par l'esprit, j'ai envoyé cette invitation. Et comme c'était à Pâques, je me suis dit, les gens, est-ce qu'ils seront intéressés déjà à Pâques pour venir au mois d'octobre? C'était peut-être risqué, parce que vous savez, je dois arrêter les chambres ici, et la salle, la maison ici, la louer ces choses, une année à l'avance. Par exemple, disons que c'est les deux dernières de cette année. Hein. Il y a octobre maintenant, il y aura novembre si on est encore en vie, ou si le Seigneur n'est pas venu. Et puis après, eh bien les sœurs m'ont dit hier, quand on est venu avec Mme Badet, qu'elles pourraient nous donner encore trois moments. Un au mois de juin l'année prochaine, cette année, et puis au mois d'octobre et au mois de novembre, pour 90 personnes. Mais je ne sais pas du tout si je dirai où. Parce que d'abord, il faut que ça corresponde à un besoin. Et puis, évidemment, il y a un prix. Mais les sœurs m'ont dit qu'elles n'augmentaient pas le prix pour l'année prochaine. Ce sera encore 74 pour ces journées-là, si on les fait. Mais si je ne prends pas cette décision, d'autres prendront cette maison parce qu'elle est très demandée. Alors, je vous le dis maintenant pour que vous en fassiez un sujet de prière. Et alors, quand j'ai reçu cette conviction que je devais vous parler de ces thèmes, de la venue du Seigneur avec les siens, et aussi de la venue du Seigneur pour les siens d'abord, j'ai pensé à ces deux épîtres, la première lettre de Paul aux Thessaloniciens et la seconde lettre pour la retraite prochaine. Pour que vous n'ayez pas les idées de Gaston Racine, parce que ça ne vaut rien. Nous voulons que vous ayez la pensée du Christ et que vous connaissiez pour vous-même ce que dit la parole et que vous croyez cette parole, quel que soit l'enseignement qu'on peut vous donner dans le milieu que vous fréquentez. Parce qu'il y a toute espèce de théorie maintenant, toute espèce de pensée qui sont propagées. Et les gens sont troublés. Alors, quand ces derniers jours, j'ai crié au Seigneur, comment vas-tu nous recevoir ici? Parce que je voulais que ce soit lui qui nous accueille. Ce n'est pas moi-même. J'ai besoin d'être accueilli avec vous. Nous sommes ensemble. Et ce qui s'est imposé à moi, c'est cette parole que j'ai mis au tableau et que vous trouvez dans le chapitre 14 de l'évangile de Jean. Et vous avez tous reçu ce petit feuillet que j'ai préparé et qui vous donne un programme. Ça rappelle le thème, puis le programme. J'ai un petit peu de retard parce que, justement, vous allez voir pourquoi. On aurait dû commencer à 8h30. Alors, cette parole d'accueil qui m'a été imposée dans la semaine, c'est cette parole que Jésus a dit le soir qu'il a passé avec ses disciples et où il a institué le mémorial béni de son œuvre, qu'on a appelé l'Eucharistie, et qui est la Sainte Cène. Qu'est-ce qu'il disait à ses disciples? Lui, le maître, qui venait de leur laver les pieds, il leur disait ceci: que votre cœur ne soit pas troublé. Et c'est cette parole qu'il vous dit ce soir. Qu'en est-il de vous? Est-ce que vous avez un certain trouble? Vous êtes arrivé ici, vous êtes peut-être précipité, ceux qui connaissent nos habitudes, pour voir dans quel groupe vous étiez. Puis vous étiez peut-être troublé, c'est pas là que vous auriez voulu être. Figurez-vous que nous faisons les choses très légèrement. On est cinq qui avons préparé ces ateliers. Et nous avons prié pour demander au Seigneur dans quel groupe vous mettre. Et qui mettre, je ne dis pas directement comme animateur, mais plutôt comme modérateur, pour que dans vos groupes, vous ayez tous l'occasion de vous exprimer, sans que vous soyez forcés de parler. Si vous ne voulez rien dire, vous ne dites rien. Mais si vous avez quelque chose à partager, quelque chose sur le cœur, après avoir médité la parole, on aimerait que vous ayez dans cette demi-heure que vous passez en tête à tête avec vos amis, ou c'est des gens, des personnes que vous ne connaissez pas encore peut-être, mais vous allez apprendre à les connaître, et c'est quelque chose de merveilleux. Figurez-vous que nous apprenons à connaître, et je veux l'espérer, des gens avec qui on passera l'éternité. Ça vaut la peine de les connaître déjà ici-bas, trouvez pas? Puis est-ce que vous êtes troublé quand vous pensez, mais où est-ce qu'il me mettra le Seigneur? C'est lui-même qui dit, dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures, et je vais vous préparer une place. Est-ce que vous serez d'accord avec la place qu'il vous aura préparée? Alors, voyez-vous, je sais très bien ce qui peut se passer. Puis, ceux qui n'étaient jamais venus ici pouvaient se dire, enfin, qu'est-ce que c'est venir dans cette maison et pourquoi? Vous y êtes venus, je ne sais pas pourquoi. Je ne fais pas de réclame, on l'annonce simplement pour les personnes qui ont ce besoin d'être instruits, non pas par un homme, mais par la parole, parce que c'est à la parole que nous donnons vraiment la place. Eh bien, nous sommes ensemble, mais vous vous demandiez comment est-ce que les choses vont se passer. Il y avait peut-être un certain trouble. Puis alors, aujourd'hui même, quand on rencontre quelqu'un, la première chose que les personnes nous demandent, mais qu'est-ce que vous pensez du référendum? On est troublé, tout le monde est troublé. J'avais ma fameuse montre qui était cassée, puis au dernier moment ce matin, j'ai téléphoné à l'horloger, puis il m'a dit, elle est prête. Alors j'étais bien reconnaissant, je me suis dit, bien voilà, je n'avais pas à être troublé pour ma montre. Elle est prête. Et j'ai rendu grâce au Seigneur. Mais il me dit, qu'est-ce que vous pensez, monsieur Racine? Qu'est-ce que vous allez faire? J'ai dit, je ne peux rien faire, moi. Je n'ai pas la nationalité. Ma nationalité, elle est céleste. Alors, il ouvre de grands yeux. Parce que lui, il est troublé. Que votre cœur ne soit pas troublé. Vous croyez en Dieu? Qui c'est qui dit cela? Jésus, est-ce que vous le croyez? Lui. Pour aujourd'hui, pour 1995, vous croyez en Dieu? Vous y croyez en Dieu? Tout le monde y croit, hein. Et quand ça va mal, alors on l'accuse, si on y croit. C'est terrible, hein? Vous croyez en Dieu, mais croyez aussi en moi. Qu'est-ce qui a dit cela? Jésus. Et est-ce que nous le croyons? Est-ce que nous croyons ce qu'il nous dit? Et qu'est-ce qu'il a dit? Je n'ai pas pu mettre tout le verset, mais vous le connaissez par cœur. « Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. S'il en était autrement, je vous l'aurai dit, car je vais vous préparer une place. Et si je m'en vais et que je vous prépare une place, je reviendrai. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Quelques jours, quelques semaines, enfin deux semaines peut-être, avant ce fameux référendum, le Seigneur vous rappelle qu'il reviendra. Qu'est-ce que vous ferez à ce moment-là? Je reviendrai. Et je vous prendrai auprès de moi, afin que là où moi je suis, vous y soyez aussi avec moi. Oh, mais il a dit cela il y a tellement longtemps qu'il est parvenu. Vous croyez en Dieu, disait Jésus. Croyez aussi en moi. Est-ce que Dieu a fait des promesses dans l'Ancien Testament? Vous les connaissez? Est-ce qu'il les a accomplies? Est-ce qu'il y a encore d'autres promesses qui doivent s'accomplir? Oui. Et Jésus lui-même, juste avant de quitter les siens, qu'est-ce qu'il leur avait promis? Que quand il s'en irait, il prierait le Père pour que le Père envoie son esprit. Parce que le Père l'avait promis. Hein. Est-ce qu'il est venu son esprit? Le jour de la Pentecôte, il y a eu cet événement extraordinaire. Le Saint-Esprit est venu baptiser ces croyants qui étaient tous plus ou moins désunis. Il les a baptisés pour qu'ils forment un seul corps. Le baptême du Saint-Esprit a formé en un seul corps les croyants qui étaient isolés des uns des autres, qui se jalousaient. Et puis maintenant, par le baptême du Saint-Esprit, ils ont réalisé qu'ils ne formaient plus qu'un corps, dont la tête était le Christ. Donc la promesse du Père s'est réalisée. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Et le Seigneur a confirmé que le Père allait le faire. Et 10 jours après son enlèvement, le Saint-Esprit est descendu et a formé ce qu'on appelle l'Église. Il y a plusieurs assemblées locales, mais il n'y a au fond qu'une Église dont font partie tous ceux qui croient au Seigneur Jésus et qui l'ont vraiment reçu. Et vous savez, pas plus tard que hier, ou avant-hier, oui, en faisant des travaux, je m'étais blessé un ongle, et pendant que le coiffeur m'arrangeait la tête, puisque je devais vous voir, eh bien, la manucure m'a arrangé mes ongles. Puis tout d'un coup, elle me dit, en faisant ce travail-là, vous savez, monsieur Racine, cette semaine, j'ai beaucoup pensé à vous. Manucure, qui pense à moi. J'ai beaucoup pensé à vous. Je lui dis, mais pourquoi? Elle me dit, je vais vous dire ce qui m'est arrivé. J'attendais le bus, et puis il faisait froid, puis il y a un homme qui est venu, puis il attendait aussi, puis il avait envie de parler, j'ai vu qu'il avait envie de parler. Alors on a parlé de la pluie et du beau temps, et puis je lui ai dit que je n'aimais pas beaucoup l'hiver, parce que, c'est elle qui parle, hein, à cet homme, parce qu'elle doit se lever tôt, et elle n'aime pas se lever tôt, puis elle a dit enfin, tout ce qui l'ennuyait. Puis elle me dit, lui il m'a bien regardé, puis il m'a dit, vous savez, moi j'étais comme vous avant. J'étais vraiment comme vous. Hein. Je n'aimais pas me lever tôt, et puis je râlais pour toute chose. Mais maintenant, c'est fini. Puis je lui dis, pourquoi? Mais j'ai rencontré quelqu'un. Quelqu'un est entré dans ma vie. Puis elle m'a dit, j'ai pensé à une femme.
Quelqu'un est entré dans ma vie, alors elle me dit, tout en me faisant mes ongles, hein, elle me dit, bien, j'ai pensé à une femme. Puis l'autobus allait venir, puis je voyais qu'il avait vraiment envie d'aller plus loin. Puis je lui ai dit, alors qui est-ce que vous avez rencontré? Jésus. Et il est entré dans ma vie. Alors j'ai pensé à vous, parce que je l'avais évangélisé, évidemment, petit à petit, on lui parle. J'ai pensé à vous. Alors j'ai dit, il vous a bien dit que quelqu'un était entré dans sa vie. Il m'a dit oui. Alors j'ai dit, c'était pas une idée. Non, non, pas une idée. Puis il n'était pas sectaire. Quelqu'un est entré dans ma vie. Je vous le demande à vous, ce soir. Est-ce que quelqu'un est entré dans votre vie? Est-ce que vous êtes habité par quelqu'un ou bien est-ce que vous avez simplement la doctrine du christianisme dans votre cœur? Que ce soit la doctrine romaine ou la doctrine protestante ou d'un isme quelconque. Ou bien est-ce que c'est quelqu'un? Ça m'a frappé qu'elle me dise ça deux jours avant que je vienne pour cette retraite. Quelqu'un est entré dans ma vie. Puis j'ai dit, mais pourquoi est-ce que vous dites que vous avez pensé à moi? Ben parce que je sais que vous l'avez. Voyez-vous, nous avons un témoignage à rendre. Et je lui ai dit, vous pensez que c'est le hasard qui lui a fait dire ça? Ah non. Alors réfléchissez. Quelqu'un est entré dans ma vie. Oh, que nous puissions commencer cette retraite avec cette pensée. Nous ne voulons pas repartir de ce lieu sans être conscients que quelqu'un nous habite. Alors, pourquoi est-ce que notre cœur serait troublé? Que votre cœur ne soit pas troublé, ni craintif. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures, je vais vous préparer une place. Et si je m'en vais et je vous prépare une place, je reviendrai et je vous prendrai auprès de moi. Et je vous demande, est-ce que ça vous dit quelque chose? Pour certaines personnes, la pensée que le Seigneur pourrait revenir les angoisse ou les trouble. Mais vous n'avez pas un sauveur? Un grand sauveur? Mais est-ce que vos péchés ne sont pas pardonnés? Tous pardonnés? Mais vous me dites, oui, mais je suis pas parfait, j'ai bien des manquements. Qu'en est-il de chacun de nous? Ce soir, est-ce que nous sommes troublés en pensant que Jésus a dit « je reviendrai » Mais est-ce que ce n'est pas une espérance dans votre cœur? Figurez-vous que si le Seigneur venait avant le 30, pourquoi est-ce que vous avez été troublés pour toute cette affaire? Savoir si vous seriez Canadien ou Québécois? Est-ce que vous n'êtes pas bourgeois des cieux, gens de la maison de Dieu? Et si vous prenez avant? Pourquoi toutes ces sueurs, toutes ces angoisses, toutes ces discussions, ces disputes, pour essayer de convaincre l'autre que c'est un groupe qui a raison contre l'autre? Pourquoi tout cela? C'est pas s'évader de penser que le Seigneur va venir, parce qu'un jour il sera venu. Il a dit « je reviendrai ». Et vous savez, quand il a dit cela, les disciples l'ont cru et ils l'attendaient même au cours de leur existence, que ce soit les apôtres ou les premiers chrétiens. Et savez-vous comment ils se saluaient quand ils se rencontraient? Maranatha. Hein? Et qu'est-ce que ça veut dire Maranatha? Le Seigneur vient. Quand ils se rencontraient pour s'exciter justement à la patience et à la sanctification, pour se rappeler qu'ils avaient une espérance, ils faisaient cette prière la plus courte. Le Seigneur vient. Maranatha, le Seigneur vient. Oh mes amis, que nous puissions nous réjouir de ce qu'un jour il sera venu. Et que chaque soir, quand vous vous endormez, vous pouvez vous dire, c'est peut-être la dernière nuit. Au lieu de penser, mais est-ce que je ne dois pas me suicider ? Ça ne va pas. Mais c'est peut-être la dernière nuit. Et puis si vous êtes habité par le Seigneur, est-ce qu'il vous laissera ? Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du siècle. Il est là. Alors vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Et pour que nous soyons certains de savoir où Jésus va nous conduire, parce qu'il dit qu'il nous prendra auprès de lui afin que là où il est, nous y soyons aussi, mais où est-il? Alors, pour que nous sachions bien où le Seigneur se trouve, lisez au chapitre 17 de Jean, où il prie lui-même son Père, et que lui dit-il? Au chapitre 17 de Jean, verset 24, « Père, je veux, quant à ceux que tu m'as donnés, que là où moi je suis, ils y soient aussi avec moi, afin qu'ils contemplent ma gloire que tu m'as donnée, car tu m'as aimé avant la fondation du monde. » Ce sont des choses qui parlent à mon cœur, et je voudrais que ces paroles aussi aient un accès dans votre cœur, et que ce soit quelque chose de définitif, que vous sachiez que le Seigneur vient et que quand il viendra, c'est pour vous prendre auprès de lui. Non pas pour vous juger et vous condamner, si vous l'avez reçu et que vous êtes sauvé. Mais vous direz, oui, mais j'ai encore la chair et quand je me regarde, je ne suis pas tellement amélioré depuis ma conversion. Vous pensiez que vous alliez vous améliorer? Et vous souffrez parce que tout à coup vous découvrez que vous n'êtes pas devenu charnellement meilleur. Hein? C'est ça notre erreur. On se figure que la conversion au Christ va nous rendre charnellement meilleurs. Est-ce qu'il y a une amélioration possible de la chair selon l'Écriture? Non, mes amis. La chair reste la chair. Et plus nous avançons dans la vie spirituelle, dans un monde tel qu'il est aujourd'hui, avec ce que nous voyons, avec ce que nous entendons, nous découvrons la corruption de notre chair, parce qu'on est tout prêt à se laisser glisser, à se laisser aller, à avoir des pensées dont nous n'oserions pas même parler, tout en étant des chrétiens. C'est vrai ou c'est faux? Alors nous souffrons, puis nous avons des doutes, puis nous disons, mais si le Seigneur vient, puis qu'il me trouve comme ça. Mais quand la chair se manifeste, qu'elle se manifestera jusqu'à ce que le Seigneur vienne, vous en voulez une preuve. Je vais vous donner deux exemples. L'apôtre Pierre, c'était un bouillant témoin du Seigneur. C'est lui qui a confessé que Jésus était le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et il pensait qu'il surpassait tous les autres. Et que même, il ne voulait pas que le Seigneur lui lave les pieds. Hein. Tu ne me laveras jamais les pieds. Il a dit ça le soir de la célébration de la scène. Mais Jésus lui dit, si je ne te lave pas les pieds, tu n'as pas de part avec moi. Puis il a dit en regardant les autres, « Si tous t'abandonnent, Seigneur, moi, je ne t'abandonnerai pas. » Et qu'est-ce qu'il a fait la même nuit? Il a renié avec imprécation ce Jésus qu'il avait confessé devant les disciples. Et il a dit, « Je ne connais pas cet homme, parce qu'il avait honte d'une servante. Il a pas osé témoigner. Je ne connais pas cet homme. » Et il a eu des mots grossiers. Voilà ce qu'est la chair. Mais quand Jésus l'a regardé, parce qu'il était là et il a entendu, Jésus l'a regardé. Il n'a rien dit, il l'a regardé. Pierre, qui était si sûr de lui, sûr que sa chair pourrait résister, alors que Jésus avait dit, l'esprit est prompt, mais la chair est faible. Alors, si nous croyons que notre chair est capable de tenir le coup dans un tel monde, Dieu qui nous aime tellement permettra que nous fassions des expériences douloureuses avec notre chair et que nous tombions dans le péché. Alors, vous ferez l'expérience de ce qu'est la chair, mais avec qui? Avec le diable. C'est vrai ou c'est pas vrai? Pierre était avec Satan, tout en ayant confessé Jésus. Et on peut être avec Satan. Quand on se laisse submerger par tout ce qui se passe dans le monde, par les convoitises du monde, par les désirs du monde, par tout cela. Et je sais que mon cœur est charnel, mais le sachant, et me laissant guider par la parole de Dieu, quand je vois les pensées que je peux avoir, qu'est-ce que je fais? Je me juge. Et je dis au Seigneur Jésus, comme c'est vrai que j'avais besoin d'un sauveur, qui n'est pas mort pour rien, mais qui est mort pour mes péché et qui est mort sur la croix, qui a donné sa vie pour moi. Mais je suis un racheté. Alors je me juge et je me condamne. Et la communion revient. Mais c'est constant. Voilà la chair. Alors, est-ce que vous voulez faire l'expérience de ce qu'est la chair avec Satan en tombant dans le péché? Mais le Seigneur vous relèvera. Ou bien est-ce que vous allez faire la découverte de ce qu'est la chair avec Dieu? Je vous donne l'exemple de Paul. Paul nous raconte qu'un jour il a été ravi, où? Au troisième ciel, hein? Et que là, il a vu le Seigneur, et qu'il a entendu des choses ineffables qui n'ont pas permis à l'homme d'exprimer. Donc Paul n'est pas venu nous raconter tout ce qu'il y a dans le ciel. Mais il nous dit, c'était tellement ineffable, je ne peux pas en parler. Mais quand il est revenu à lui, après cette expérience, il souffrait de quoi? Un ange de Satan lui avait été donné pour le souffleter. Puis il dit pourquoi? Pour qu'il ne s'enorgueillisse pas. Quand on a été ravi au troisième ciel et qu'on a vu le Seigneur, on pourrait se dire, ben alors, il n'y a plus de danger pour moi. Mais justement, c'est quel danger? Si vous avez eu quelques victoires, si vous avez été béni spirituellement, c'est justement à ce moment-là que vous êtes en danger. Et alors, le Seigneur permet, pour que vous ne vous enorgueillissez pas, que vous ayez peut-être certaines épreuves ou une infirmité quelconque. Et Paul, lui, il pensait, mais si j'étais délivré de cette infirmité, je pourrais beaucoup mieux te servir. Et alors il a prié, par trois fois, il a demandé à Dieu d'être délivré de cette écharpe. Et qu'est-ce qu'il a eu comme réponse? Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Et justement, aujourd'hui, on ne veut pas la faiblesse, on veut la puissance, on veut la force. On veut montrer qu'on est quelqu'un dans le Seigneur, rempli du Saint-Esprit. On n'a pas à montrer ça. On est à être ce que nous sommes aux yeux de Dieu, dans la dépendance. Oh, mes amis, ne vous laissez pas influencer. Le Seigneur est avec les pauvres, le Seigneur est avec les faibles, le Seigneur est avec ceux qui sont conscients de leur misère. Parce que Dieu est un Dieu miséricordieux. Et quand il voit que nous sentons notre misère, toute sa miséricorde vient vers nous. Et c'est ça qui est merveilleux. Il est un Père, comme nous allons le voir cette semaine, de miséricorde. À qui Dieu résiste-t-il? Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. À qui est-ce qu'il résiste? Aux
l'orgueil. Alors, voyez-vous, c'est quelque chose de très beau, souvenez-vous de cela. Voulez-vous apprendre ce qu'est la chair avec Satan, qui vous fera tomber dans le péché, pour vous prouver que vous n'êtes pas capable, mais Pierre était sûr qu'il ne le trahirait pas, et c'est justement lui qui l'a trahi. Il a jugé tous les autres. Quand même tous t'abandonneraient, moi, je ne t'abandonnerai pas. Alors ça, c'est l'orgueil. Dites-vous bien, si je suis seul, je suis abandonné. Mais si le Seigneur est en vous, eh bien, vous êtes conscient qu'il n'y a aucune gloire pour vous. Si vous faites quelque chose de bien, toute gloire vient au Seigneur. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ce que je vis dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Oh mes bien-aimés, je demande au Seigneur que vous soyez bénis dans cette retraite. Vous savez que tous ne sont pas encore arrivés. Et alors, la première étude vraiment sur cet épître aux Corinthiens, eh bien, nous la ferons quand tous seront là demain matin. Je vous ferai l'introduction de cet épître aux Corinthiens, aux Thessaloniciens, pardon, demain matin. Mais en attendant, parce que c'est le meilleur moyen d'être enseigné, nous allons lire ensemble cet épître. Mais, pour bien situer ce qui s'est passé dans cette ville de Thessalonique, que nous allons apprendre à connaître, je lirai dans le chapitre 17 des Actes quelques versets. Comment les Thessaloniciens, donc ces gens qui habitaient la ville de Thessalonique, qu'on appelle aujourd'hui Salonique, en Macédoine, au chapitre 17 des Actes, nous apprenons que Paul et Silas, ayant quitté quelle ville? La première ville qui a été évangélisée en Europe. Vous vous souvenez quelle ville c'était? La ville de Philippe. Et il s'était passé toute espèce d'événements. Ils ont été battus, ils ont été emprisonnés, mais Dieu a sauvé des âmes dans cette ville de Philippe. Mais au lieu d'être découragés quand ils ont dû quitter Philippe, eh bien, ils ont continué. C'est pas parce qu'on est persécuté pour le nom de Jésus qu'on arrête de parler de lui. On continue. Alors, je lis au chapitre 17. Paul et Silas passèrent par Amphipolis et Apollonie et ils arrivèrent à Thessalonique où les Juifs avaient une synagogue. Vous savez qu'à Philippe, ils n'avaient pas de synagogue, les Juifs, parce qu'ils étaient trop peu nombreux et trop pauvres, mais ils se réunissaient quand même le sabbat où? Au bord de la rivière, c'était un lieu providentiel, n'est-ce pas? Alors ils se retrouvaient là. Et quand Paul et Silas sont arrivés là, poussés par la vision qu'ils avaient eue, qu'on lit au chapitre 16, ils se sont mis à parler à des femmes. Quelques femmes juives étaient là. Et l'une d'elles, qui était une marchande, une commerçante, s'est convertie. Elle s'appelait comment? Lydie, hein, vous vous souvenez de tout cela. Hein. Et au verset 2, il est dit, du chapitre 17, à Thessalonique, il y avait alors une synagogue. Paul y entra selon sa coutume. Et pendant 3 sabbats, il discuta avec eux d'après quoi? D'après les Écritures, expliquant et établissant que le Christ devait souffrir et ressusciter des morts. Et Jésus que je vous annonce, disait-il, c'est lui qui est le Christ. Quelques-uns d'entre eux furent persuadés et se joignirent à Paul et à Silas, ainsi qu'une grande multitude de Grecs craignant Dieu et beaucoup de femmes de qualité. Voilà les gens qui ont été convertis, nous le verrons demain. Mais ils n'ont pas pu rester, et on se dit, mais quand même, ils avaient un travail merveilleux qui se faisait, l'évangile était reçu par non seulement ces Juifs, une partie des Juifs, et puis des Grecs, des païens se sont convertis, des femmes de qualité, mais il y a eu des persécutions, on est allé chercher des gens de mauvaise vie, et on a accusé Paul de troubler la paix, et ils ont dû partir. Alors, il n'a pas pu continuer l'œuvre. Et c'est à cause de cela, vous voyez, nous désolons, mais c'est quand même, si on était à la place de Dieu, nous aurions délivré Paul tout de suite pour qu'il puisse rester. Mais s'il était resté, qu'est-ce qui nous manquerait? L'épître aux Thessaloniciens. C'est la première lettre qu'il a écrite. Puisqu'il ne pouvait pas rester, il a dû partir. Mais quand on part, qu'est-ce qu'on peut faire? Pour rejoindre ceux qu'on aime, ceux qu'on a connus, on leur écrit. C'est pourquoi il a dit que toutes choses concourent ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu. Rien n'est contre vous. Est-ce que vous le croyez? On est dans un monde terrifiant, hein. On se demande, il n'y a plus de sécurité. Et on voudrait avoir une sécurité. Eh bien, peut-être qu'il faut que le Seigneur nous enlève cette sécurité pour qu'on soupire après ça venu. Mais ce n'est pas simplement pour ça. Nous devrions soupirer après la venue du Seigneur. Pourquoi? Parce que nous l'aimons. Parce qu'il nous a tellement aimés. Et nous voudrions être avec celui qui nous a tant aimés. C'est un amour pour le Seigneur qui devrait nous dire, viens Seigneur Jésus. C'est pas la situation du monde, mais c'est l'amour pour le Seigneur. Mais est-ce que nous sommes habités par l'amour du Seigneur? Est-ce que nous serions prêts, est-ce que nous serions réjouis de quitter ce monde d'ici quelques jours sans passer même par la mort? Et en voyant s'accomplir tout ce que nous allons lire, et ça sera accompli, quel que soit notre état physique, en un instant, en un clin d'œil. Alors, pour que vous ayez vraiment la connaissance de cette parole, on va lire ces chapitres, pour que vous en ayez vraiment une première connaissance. Et quand vous voulez lire pour vous-même une épître, il ne faut pas lire quelques versets, parce que vous n'y comprendrez rien et vous ne pourrez pas être nourri. Mais vous faites une première lecture. Mais vous dites, oh mais c'est trop long. Non, vous verrez, c'est pas très long. C'est pas très long de lire une première lecture, sans s'arrêter. Sinon, vous essayez de retenir quelque chose. Demain, on va prendre alors verset par verset. Vous avez ouvert votre Bible à la première épître aux Thessaloniciens, mais comme on ne peut comprendre l'Écriture que par le Saint-Esprit, nous allons l'invoquer. Seigneur Jésus, ce ne sont pas des idées d'hommes, des pensées humaines que nous voulons recevoir, mais ta parole. Et nous te demandons que nous puissions lire cette épître et recevoir cet enseignement selon les besoins de nos cœurs. Ouvre nos yeux et que nous puissions voir les merveilles de ta loi. Amen. Paul, Sylvain et Timothée à l'église des Thessaloniciens qui est en Dieu le Père. et en Jésus-Christ, le Seigneur. Que la grâce et la paix vous soient données. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières, nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ, devant Dieu notre Père. Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. Vous le savez? Notre évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance. Et justement, c'est cette puissance qui change les vies. Ce n'est pas des guérisons, une puissance de faire des miracles. Ce n'est pas ça dont il est question ici. La parole a été prêchée avec une telle puissance que cette parole a eu un accès dans leur cœur et quelqu'un est entré dans leur vie. Avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion, car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup d'afflictions avec la joie du Saint-Esprit. Est-ce que nous la connaissons, cette joie du Saint-Esprit, dans nos tribulations? En sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Non seulement, en effet, la parole du Seigneur a retenti de chez vous, dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais encore votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. Rendez-vous compte? Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu. Ce n'est pas une doctrine, à une personne. En abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre quoi? D'où? Des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Est-ce que vous attendez la colère? Ou est-ce que vous attendez Jésus? Il nous délivre de la colère à venir. Bon, passons plus loin. Vous savez vous-même, frère, que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. Après avoir souffert et reçu des outrages à Philippe, c'est ce que nous avons vu tout à l'heure, comme vous le savez, nous avons pris de l'assurance en notre Dieu pour vous annoncer l'évangile de Dieu au milieu de beaucoup de combats. Au lieu d'être découragés, ils ont pris de l'assurance. Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude. Mais puisque Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile, nous parlons, non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. Jamais, en effet, nous n'avons usé de paroles flatteuses, comme vous le savez. Jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile. Dieu en est témoin. Nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Nous aurions pu nous imposer avec autorité comme apôtres de Christ, mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous. De même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants, nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore notre propre vie
tant vous nous étiez devenus chers. Vous vous rappelez, frères, notre travail et notre peine, nuit et jour à l'œuvre pour n'être à la charge d'aucun de vous. Nous vous avons prêché l'évangile de Dieu. Vous êtes témoins, et Dieu l'est aussi, que nous avons eu envers vous qui croyez une conduite sainte, juste et irréprochable. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants, vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle l'est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Car vous, frères, vous êtes devenus les imitateurs des églises de Dieu qui sont en Jésus-Christ, dans la Judée, parce que vous aussi vous avez souffert de la part de vos propres compatriotes les mêmes maux qu'elles ont souffert de la part des Juifs qui ont fait mourir le Seigneur Jésus et les prophètes qui nous ont persécutés, qui ne plaisent point à Dieu et qui sont ennemis de tous les hommes, nous empêchant de parler aux païens pour qu'ils soient sauvés, en sorte qu'ils ne cessent de mettre le comble à leurs péchés. Mais la colère a fini par les atteindre. Pour nous, frères, après avoir été quelque temps séparés de vous de corps mais non de cœur, nous avons eu d'autant plus ardemment le vif désir de vous voir. Aussi voulions-nous aller vers vous, du moins moi, Paul, et même deux fois, mais Satan nous en a empêchés. Quelle est en effet notre espérance et notre joie et notre couronne de gloire, n'est-ce pas à vous aussi, devant notre Seigneur Jésus, lors de son avènement? Oui, vous êtes notre gloire et notre joie. C'est pourquoi impatients que nous étions et nous décidant à rester seuls à Athènes, nous envoyâmes Timothée, notre frère, ministre de Dieu, dans l'évangile de Christ, pour vous affermir et vous exhorter au sujet de votre foi, afin que personne ne soit ébranlé au milieu des afflictions présentes, car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. Et lorsque nous étions auprès de vous, nous vous annoncions d'avance que nous serions exposés à des afflictions, comme cela est arrivé, et comme vous le savez. Ainsi, dans mon impatience, j'envoyais quelqu'un pour m'informer de votre foi dans la crainte que le tentateur ne vous ait tenté et que nous n'ayons travaillé en vain. Mais Timothée, récemment arrivé ici de chez vous, nous a donné de bonnes nouvelles de votre foi et de votre amour et nous a dit que vous avez toujours de nous un bon souvenir, désirant nous voir comme nous désirons aussi vous voir. En conséquence, frères, dans nos angoisses et nos épreuves, nous avons été consolés à votre sujet à cause de votre foi. Car maintenant, nous vivons, puisque vous demeurez fermes dans le Seigneur. Quelles actions de grâce, en effet, nous pouvons rendre à Dieu à votre sujet pour toute la joie que nous éprouvons à cause de vous devant notre Dieu. Nuit et jour, nous le prions avec une extrême ardeur de nous permettre de vous voir et de contempler et de compléter ce qui manque à votre foi. Que Dieu lui-même, notre Père et notre Seigneur Jésus, aplanisse notre route pour que nous allions vers vous et que le Seigneur fasse croître et abonder l'amour que vous avez les uns pour les autres et pour tous, à l'exemple de celui que nous avons pour vous, qu'il affermisse vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu notre Père lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Vous savez en effet quels préceptes nous vous avons donnés de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de la débauche. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu. Il vous a aussi donné son esprit. Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères dans la Macédoine entière. Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour et à mettre votre honneur, à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires, à travailler de vos mains comme nous l'avons recommandé, en sorte que vous vous conduisiez honnêtement envers ceux du dehors, c'est-à-dire de ceux qui ne croient pas, et que vous n'ayez besoin de personne. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, littéralement de ceux qui dorment, parce que les croyants, leur mort est considérée comme un sommeil, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Voici en effet ce que nous déclarons d'après la parole du Seigneur. Donc, ce n'est pas l'apôtre Paul, une idée de l'apôtre Paul, hein. C'est la parole du Seigneur. Comme Jésus disait, j'avais encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous n'êtes pas capable de les supporter. Mais quand le Saint-Esprit sera là, eh bien, il qualifiera des hommes qui continueront d'enseigner. Et c'est ce qui est arrivé. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés, car le Seigneur lui-même, un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement, ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Donc, ce qu'il leur écrit au sujet de la venue du Seigneur devrait les consoler et les encourager. Mais voyez plus loin. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frère, qu'on vous en écrive. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Est-ce que c'est ce que vous attendez? Non, c'est ce qui arrivera pour le monde. Mais pour les croyants, c'est pas cela. Quand les hommes diront, parce qu'ils y travaillent et puis ils espèrent y arriver, paix est sur terre,
Alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, vous voyez qu'il y a une différence, hein? Il y a deux sortes de personnes qui sont impliquées. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière, des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous, qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère. Ça revient, hein, ça. Mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que nous veillions, soit que nous veillions, soit que nous dormions, c'est-à-dire soit que nous soyons en vie quand il viendra, soit que nous soyons décédés, morts, nous vivions ensemble avec lui, car quand il revient, tous vivent. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns et les autres, comme en réalité vous le faites. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous et vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. Nous vous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais recherchez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse, rendez grâce pour toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et il ne le fera pas. Qu'est-ce que vous disiez dans votre version révisée? Et c'est lui qui le fera. Vous croyez en Dieu? Croyez aussi en moi. Frères, priez pour nous. Saluez tous les frères par un saint baiser. Je vous en conjure par le Seigneur que cette lettre